Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, je vais commencer mon émission par une citation qui est issue du livre Jouissance Club de June Pla, donc qui est dans la préface qui a été écrite par Martin Page, qui dit « La sexualité est le sujet dont on ne parle pas. Les mots sont là pourtant, partout, dans les journaux, à la télé, dans les soirées entre amis, mais souvent, ce sont des mots qui masque, cache et passe sous silence toute parole complexe et singulière. » Et c'est donc ce tabou que Delphine Dubois-Fabin, notre invitée d'aujourd'hui, essaie de briser. Donc tu es autrice et metteuse en scène à la Compagnie du Savon Noir. Donc bonjour Delphine, comment ça va?
Bonjour, et ben, je suis vraiment ravie sous ce beau soleil de venir parler de sexualité avec vous et de briser ce tabou.
Et donc ce tabou, tu essaies de le briser à travers un événement qui est une conférence théâtralisée qui s'appelle « Quand je parle sexualité, je me mouille » et donc qui est jouée dans différents endroits, mais notamment le 29 novembre 2024 à 19h à l'Autre Rive à Hébin. Et donc est-ce que tu peux d'abord nous présenter un peu la compagnie qui organise cette conférence théâtralisée, comment elle est née
Alors on est né il y a une petite dizaine d'années avec l'envie à la fois de créer de beaux spectacles et de parler de sujets de société et aussi d'ouvrir des espaces de parole à des personnes qu'on entend insuffisamment dans l'espace public. On travaille essentiellement à partir de collectes de témoignages. On a travaillé sur l'exil, on a travaillé sur la souffrance au travail et aujourd'hui sur la vie intime, affective et sexuelle. Et sur chaque sujet, on travaille 3, 4, 5 ans et on crée des ateliers spécifiques, des spectacles pour adultes et pour enfants. Et puis sur les questions de vie intime, sur des conférences théâtralisées, dont celle qui sera jouée demain soir.
Et donc tu parles de conférences théâtralisées, est-ce que c'est comme du théâtre de forum, c'est ça ou...
Non,
pas exactement.
On est plus proche de la conférence gesticulée. Donc ce sont des conférences qui sont écrites à partir de nous, nos savoirs de femmes. C'est Catherine Leur qui a été ma co-autrice sur ce spectacle. De tout ce qu'on a pu lire, apprendre dans Jouissance Club et dans plein d'autres ouvrages. Donc c'est ça qu'on mélange. Il y a des moments très sérieux, il y a des moments vraiment avec du contenu, il y a beaucoup d'humour et surtout dans notre travail, il y a beaucoup, beaucoup d'interactivité. Le public a vraiment la possibilité de faire des jeux, de donner son avis et parfois de monter sur scène. Bah, oui, demain soir, ce sera possible aussi.
Oui, en parlant de jeu, on fera tout à l'heure un petit jeu radiophonique, donc restez bien sur les antennes. Et donc, c'est une compagnie qui est assez particulière, car votre but, il est de soutenir la parole des personnes qu'on n'entend pas suffisamment dans l'espace public. Et donc, comment vous est venue l'idée de ce spectacle pour parler de sexualité ?
Alors, tout a commencé il y a pas mal d'années avec une collecte de témoignages dans le secteur des handicaps, où là, on a entendu parler d'histoires vraiment folles. Par exemple, un copain qui était en fauteuil roulant, donc qui avait simplement un handicap physique, et qui voulait amener une amoureuse dans sa chambre. Et on lui avait dit « Marie-toi d'abord. Légalement, tu ne peux pas inviter une femme dans ta chambre. » Et donc, ça nous avait vraiment choqués. On s'en était beaucoup amusés aussi à se dire que si tous les valides avaient envie, s'ils avaient envie d'avoir des relations sexuelles, avaient besoin de se marier, il y aurait vraiment des années et des années d'attente à la mairie. Ou alors, ça donnerait une inflation de fonctionnaires, je ne sais pas, mais vraiment, c'est pas jouable. Et puis, plus on a travaillé sur ce thème, plus on a appris beaucoup de choses vraiment injustes. Par exemple, je me souviens d'une femme tétraplégique qui avait 40 ans et qui pensait que le sang qu'elle perdait chaque mois était lié à son handicap et qui ne savait pas que c'était parce qu'elle était femme. Et donc, elle pensait qu'elle allait mourir de cette perte de sang. Donc vraiment des privations d'informations gravissimes. Plein d'IME où les jeunes n'ont pas le droit de s'embrasser, n'ont pas le droit de se toucher, mais ils y restent jusqu'à 25 ans. Donc ils apprennent la vie sexuelle par leurs propres moyens, souvent pas du tout, et ils arrivent dans le secteur adulte sans info. On espère vraiment qu'ils vont tomber sur des gens qui vont être bienveillants avec eux, mais c'est évidemment pas toujours le cas. Il y a à peu près entre 10 et 20% de personnes dans la société française qui sont victimes de violences sexuelles, et 5 à 7 fois plus dans le milieu des handicaps. Donc au minimum 50% des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, c'est énorme, c'est insoutenable, et ça fait clairement partie des raisons pour lesquelles on a eu envie de faire ce travail. Et après, je vous le disais, on a aussi vraiment des préoccupations juste de femmes. Moi, j'ai 50 ans. J'ai découvert sur France Inter, il y a 8-9 ans, que mon clitoris mesurait 12 cm. J'ai fait « What ?» Du coup, vous comprenez bien j'attends des radios mainstream pour pouvoir développer mes compétences en sexualité. Ça va extrêmement, extrêmement lentement. Donc, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose par nous-mêmes. Et donc, c'est ça qui nous a amené à agir. Beaucoup d'échanges avec des adolescents, des questions autour des différentes sexualités. Comment est-ce qu'on peut les vivre librement? Voilà. Enfin, c'est un sujet tellement vaste que nos raisons d'en parler sont vraiment nombreuses.
Et donc, vous palliez à ce manque d'informations par le théâtre. Et à quel type de public s'adresse votre spectacle ?
Alors, ça s'adresse à tout type de public. Hier, on jouait la conférence « Oser parler de sexualité » devant des quatrièmes. Donc, on joue en collège, en lycée, devant vraiment tous des adultes. Mais nos conférences ont la spécificité d'être adaptées à des personnes en situation de handicap. On essaye d'avoir un vocabulaire le plus simple possible pour que tout type de personnes puissent vraiment nous entendre. Nous, évidemment, notre action dans le secteur des handicaps est très, très importante. C'est vraiment un déni des droits humains sur lesquels on s'investit beaucoup. On a notamment créé les ateliers de l'amour, qui sont un programme d'éducation à la santé sexuelle qui dure 2 ans, qui est très novateur, qui mélange l'outil du théâtre avec plein d'outils de santé publique. Et puis, on forme les professionnels, on forme les institutions sur des choses aussi simples que oser parler de sexualité, jusqu'à savoir gérer une situation d'agression ou une situation zone grise. Étant donné que les personnes en situation de handicap sont complètement privées de droits et de savoir, d'expérimentation, de possibilités d'expérimentation. On a fait une enquête, par exemple, pour savoir auprès de 200 personnes qui ont participé à nos programmes ce qu'ils pensaient que c'était faire l'amour. Et certains nous répondaient c'est aller faire les courses, mais à deux. Et d'autres nous répondaient, ceux qui avaient été informés uniquement via le porno plutôt hard, c'est quand on rentre dans une pièce et que la femme se met toute nue et qu'on met son pénis dans ses fesses. Du coup, les deux personnes ont une vision très différente de faire l'amour. Si elles conviennent, même s'il y a une vraie demande explicite de consentement, et dans le milieu du handicap, on leur demande beaucoup de le faire, donc ils le font beaucoup. Donc si on demande, si deux personnes se demandent « est-ce que tu veux faire l'amour ?», que les deux se disent « ok », et qu'il y en a une qui considère que c'est faire les courses à deux, et l'autre qui considère que c'est mettre un pénis dans un anus, évidemment qu'il y a des risques de violence également accru par ce biais.
Oui, donc des représentations qui sont très éloignées de la réalité. Et tu as parlé des ateliers amour, donc ils se construisent comment et où est-ce que tu interviens avec ces ateliers, peut-être dans des écoles ou est-ce que c'est juste au sein de la compagnie ?
Alors, on a commencé à travailler dans les structures médico-sociales qui accueillent des personnes en situation de handicap de différents âges. Et tout ce que l'Agence régionale de santé finance aujourd'hui, c'est un programme qui s'appelle Handicap et alors, qui est mis en place par le planning familial et qui est de 6 séances. Et parfois, ces 6 séances sont partagées entre les personnes en situation de handicap et les professionnels. D'un point de vue de santé publique, on sait qu'une action d'éducation à la santé sur un thème précis pour un public valide ne marche pas à moins de 6 à 15 séances selon les études. Donc on voit que le nombre de séances qui est financé ne peut évidemment pas fonctionner, a fortiori pas avec des personnes qui peuvent avoir des troubles psychiques ou des déficiences intellectuelles. Il faut leur répéter souvent les choses pour qu'elles puissent les retenir, et encore moins sur un thème aussi complexe que celui de la vie intime, affective et sexuelle. Donc on a eu la chance de mobiliser plein de sous et de faire un programme de 40 séances. Et ce programme a été évalué, et il a montré qu'il était efficace et qu'on changeait effectivement la vie des gens. Et pour nous, c'est extrêmement gratifiant, parce que concrètement, ça veut dire des personnes qui sont parfois dans des relations de violence aiguë. Je me souviens d'un monsieur qui se faisait écraser des cigarettes sur le corps par son compagnon, qui n'arrivait pas à sortir de cette relation. Et suite aux ateliers de l'amour, il a pu en sortir. Parce qu'on vient sur un terrain où ce sujet avait déjà été travaillé, bien sûr, on n'est pas les seuls, mais aussi parce que nous, on fait discuter les gens entre eux. On ne vient pas apporter un savoir descendant. Bon, là, vous n'en doutez pas, parce que je parle depuis 10 minutes sans m'interrompre. Mais normalement, dans les ateliers de l'amour, on ne fait pas ça. On est plutôt sur des jeux. Et donc, y a vraiment cette idée de travailler avec les personnes, de leur apprendre à découvrir les choses par elles-mêmes. Et ça a un effet puissant sur la liberté que les personnes acquièrent sur leur vie intime, affective et sexuelle.
Donc ça a une construction très participative et oui, tout le monde peut interagir. Donc ça montre bien qu'il faut une éducation au quotidien à ce sujet, en particulier pour ce type de public. Et concernant votre spectacle, comment est-ce qu'il a été construit ? Tu as parlé avant de collecte de témoignages.
Ouais. Alors je reviens aussi, et du coup on intervient aussi en collège et en lycée. On va commencer des séries d'ateliers aussi dans le système scolaire. On est en train de mettre pareil en place un projet assez ambitieux dans le contenu. Donc comment est-ce qu'on a construit notre conférence ? On a un gros problème, c'est qu'on a trop de choses à dire. Donc voilà, on voulait faire un vrai spectacle d'Avignon qui durait 14 heures, où on donnait des plaids aux gens avec des petits chocolats chauds. Mais finalement, on a opté pour faire des conférences par épisode. Et effectivement, notamment dans la conférence « Oser parler de sexualité », donc il y a 4 épisodes prévus, 2 déjà réalisés, « Oser parler de sexualité », et celle qu'on va jouer demain soir, « Hashtag le consentement, c'est sexy ». Il y en aura une autre qui s'appellera « Ah, l'amour », et une dernière autour des histoires de contraception, des questions de contraception. Et donc, c'est vraiment l'idée de démonter le tabou, en fait. C'est l'idée d'amener le public à se questionner autour de qu'est-ce qu'il a eu ou pas comme information. Je vous le disais, moi je suis vieille. Je trouve ça super, titre personnel. 50 ans, je trouve ça très très chouette. Mais en tous les cas, jamais de ma vie, un médecin ne m'a demandé, m'a dit « Madame, est-ce que vous voulez des enfants ou pas ?»« Non. Votre contraception, comment vous la gérez ?» Moi, je suis hétérosexuelle. « Vous pouvez venir avec votre compagnon et on verra si c'est lui ou vous qui portez la contraception. Je vais vous informer sur les risques liés aux contraceptions hormonales, genre la pilule, le stérilet hormonal, etc. Parce qu'il peut y avoir des problématiques graves par rapport à votre santé mentale. Ça vaut le coup que vous surveilliez votre santé mentale. Donc voilà, comment on fait, nous, femmes, pour gérer notre propre contraception ? Et bonne nouvelle, les hommes, ils ont aussi un cerveau qui fonctionne pour beaucoup, beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux ont plutôt envie de gérer eux-mêmes le fait d'avoir des enfants ou pas. Et donc, ils ont la possibilité, grâce à différentes contraceptions, le préservatif, bien sûr, le slip chauffant aussi, qui permet de rapprocher les testicules du corps et donc de les mettre à 37 degrés. Et votre petit scrotum, messieurs, vous permet d'éloigner vos testicules de votre corps pour le laisser à 35 degrés, parce qu'à 35 degrés, les testicules, elles sont peinardes, elles sont bien et elles produisent des spermatozoïdes. Mais à 37, non, pas du tout, les pauvrettes, elles ont trop chaud. Donc le slip chauffant sert juste à rapprocher les testicules pour que les hommes ne soient plus fertiles. Donc, messieurs, vous pouvez être libres aussi de faire des enfants ou pas. Donc, je suis sûre que vous adorerez cette info.
Donc une responsabilité qui est tant au niveau des hommes qu'au niveau des femmes, mais que la société a plutôt tendance à à porter sur les femmes. Et donc ce spectacle, il est joué un peu partout. Tu m'as dit avant qu'il était même en Guyane. Donc comment il s'est retrouvé là-bas et à quel autre endroit est-ce qu'il est ?
Écoute, effectivement, on n'est pas si nombreux à parler de sexualité en France et en particulier dans le secteur des handicaps. Nous, on a une pédagogie qui est un peu particulière, des spectacles très interactifs. Et donc, on est un peu connus en France pour ça. Par exemple, on nous a commandé une conférence au ministère de la Santé. Et là, j'ai été tellement choquée, en fait. Donc, on faisait une conf un peu mixte, celle sur oser parler de sexualité et celle sur le consentement. Quelqu'un qui n'aurait pas compris en m'écoutant que je suis féministe. Oui, hein, je suis un tout petit peu féministe. Et donc, on parlait devant une centaine de grands responsables de services de santé ado. Et on leur faisait faire des dessins de vulve. Parce que l'anatomie féminine est insuffisamment connue en population générale. Mais nous, on voulait surtout qu'ils dessinent des vulves. On ne pensait pas qu'ils ne connaissaient pas eux non plus la vulve. Et donc, en fait, dans une vulve, attention, premier mini-jeu radiophonique, vous n'aurez rien gagné cette fois-ci, mais à votre avis, une vulve, combien est-ce qu'il y a de trous ? Vous diriez quoi ? Est-ce que tu as une idée ?
Bah, un.
Un, deux, trois, oui, quatre, cinq, six. Et oui, mesdames, vous faites bien d'écouter cette émission. Vous pensiez commencer l'émission en ayant une vulve à deux trous, l'urètre et le vagin. Et non, mesdames, vous avez une vulve à six trous. Eh oui, extraordinaire, non ? Deux trous, les glandes de Bartholin qui sont de part et d'autre de votre vagin. Et c'est d'eux que sort le liquide lubrifiant quand vous êtes excité. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, de part et d'autre de l'urètre, les glandes de Skene, elles sont visibles à l'œil nu, hein. Donc voilà, vous pourrez faire des explorations avec un petit miroir en solo ou à deux ou plusieurs. Voilà, je vous laisse gérer la découverte de votre corps avec bonheur. Donc, de part et d'autre de l'urètre, les glandes de Skene qui, elles, produisent un liquide qui protège l'urètre pendant les rapports sexuels. C'est bien que vous sachiez que votre corps, votre sexe ne s'humidifie pas par porosité, par magie, par pluie divine, céleste. Non, non, c'est quatre petites glandes qui sont à la manœuvre et qui peuvent parfois se boucher. Et donc, les professionnels de santé ne savaient pas dessiner une vulve. Ça, c'est quand même la grosse panique, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on prenne en charge nous-mêmes la connaissance de notre corps, c'est utile. Et donc, à la fin de la conférence, un philosophe, un cinquantenaire aussi, ou cadra, était venu nous voir pour nous dire « Non, mais vous savez, en fait, le consentement, ça casse la magie. » Et donc, il avait trouvé ça vraiment important de venir nous expliquer, parce que manifestement, nous qui parlions du consentement, on avait dû se planter, on avait dû pas comprendre un truc, on avait dû rater comment on pouvait avoir des rapports sexuels. Et donc, il est venu nous expliquer que vraiment, le consentement, c'était chiant. Et en fait, on travaille beaucoup et souvent sur ce thème, et c'est banal que des hommes en particulier viennent nous expliquer à quel point, quand on dit le consentement, ça s'apprend, il faut du temps, et c'est OK, connaître son corps, ça prend du temps, qu'on peut dire oui, non, peut-être, qu'on peut changer d'avis. Toutes ces notions autour du consentement, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne l'ont pas acquis. Mais moi, je me suis dit... Mais non, en fait, c'est les vieux, en fait, c'est ma génération. On est tous des cons, on est tous coincés. Je vais aller voir du côté des jeunes, puis ça va être réglé, la question du consentement. Et j'ai pu me rendre compte que malheureusement, même chez les adolescents, les jeunes adultes, ça restait un gros sujet. Donc ça aussi, ça fait partie de nos envies pour créer cette conférence sur le consentement. Aller dans la subtilité, pas juste dire « Ah ben, t'as qu'à dire oui, t'as qu'à dire non et démerde-toi ». Alors qu'on sait bien dans notre vie sexuelle que non, c'est compliqué, on est en train de faire un truc à deux, on n'ose pas forcément dire « Ah non, mais là, arrête tout, quoi. Franchement, c'est naze ce que tu fais. » On a envie d'encourager, on a envie de laisser un peu de temps, en même temps, on gère ses propres désirs. C'est une affaire bien compliquée. Et ça méritait bien qu'on y accorde au moins une heure et demie.
Oui, et d'où le nom de cette scénette qui s'appelle « Le consentement, c'est sexy », si
ouais,
je ne me trompe pas.
Absolument.
Et toutes ces scénettes, elles peuvent être jouées indépendamment, c'est ça ? Elles n'ont ouais, pas besoin d'être ensemble ?
Oui, tout à fait. Toutes ces conférences théâtralisées-là, elles peuvent être jouées vraiment en fonction des demandes et des besoins des personnes.
Et donc, selon les endroits, est-ce qu'il y a des thèmes que vous axez plus ou c'est plutôt à la demande peut-être d'un public ? Enfin, comment vous vous dites « Ah bah, à cet endroit, je vais parler de contraception » ou « À cet endroit, je vais plutôt parler de consentement ?»
Alors, c'est très adapté à l'âge. On ne va pas parler de la sexualité de la même manière à des adultes ou à des collégiens voilà, de 12-13 ans. Pour autant, on ne met pas plus de tabous pour les 12-13 ans parce qu'on sait qu'ils ont regardé du porno. On sait, enfin, il y a 60% des moins de 15 ans qui ont déjà vu du porno. Donc dans la salle, il y en a beaucoup. On sait que le porno, bon, évidemment, vous savez toutes et tous là qui nous écoutez que c'est du fake. Mais effectivement, pouvoir dire que si tous les hommes avaient un sexe d'acteur porno, juste, ils ne trouveraient pas de vagin à leur taille, en fait. Que juste quand on a un sexe particulièrement gros, comme ils sont sélectionnés pour en avoir, plus des produits, plus des manières de filmer, etc., juste, on est super handicapé pour avoir des rapports sexuels satisfaisants. Et quand on en regarde beaucoup, ça a un effet réel sur la confiance en soi, sur l'acceptation de son corps et de son sexe. Donc ça peut être très chouette de regarder des pornos qui ont un effet d'excitation, qui peuvent être agréables à regarder pendant la masturbation notamment. C'est bien que l'émission ne soit pas diffusée au moment du petit déjeuner. Peut-être il y a des gens à qui ça conviendrait plus ou moins, mais au petit déjeuner, il y en a qui aiment. Hein. Moi, je ne juge personne. Et du coup, il y a vraiment cette idée. Je me suis perdue. Je parlais du porno. Il y a vraiment et aussi, ouais, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il y a des pornos éthiques. Que bien sûr, vous le savez, dans le porno, il y a de l'exploitation des salariés. Quand ils le sont, il y a beaucoup de manières de dégrader l'image de la femme, mais ce qui est vécu par les femmes ne les excite pas forcément. Elles ne sont pas toujours prévenues. Parfois, pour pouvoir tourner un viol qui est vraiment l'air réel, eh ben, on viole vraiment les personnes. Du coup, il y a des pornos féministes qui sont faits dans le respect des actrices. Ça vaut le coup de payer une petite place pour avoir des conditions de travail décentes pour ces personnes. Et il y a aussi des audios, des pornos audio comme Vox ou Cox, qui sont très sympas à écouter.
Oui, donc de plus en plus, il y a aussi tout ce monde de la pornographie qui change, et heureusement, et qui se met en accord un peu avec les valeurs qui sont en vogue, si je puis dire. Et donc, pour parler de toutes ces questions, je voulais te demander comment est-ce que tu t'es formée à tout ça ?
Alors, moi, j'ai travaillé il y a longtemps dans le secteur du VIH. J'étais répondante à Sida Info Service. Donc, j'ai une culture au moins des IST, du respect des pratiques sexuelles de chacun. Et puis ensuite, effectivement, j'ai eu différentes formations, différentes sexologues. Sur ces questions-là, plus beaucoup de podcasts, les couilles sur la table, et puis voilà, et autres grands classiques.
Et tout cela t'a amené donc à faire notamment le spectacle Le lit des autres. Et donc, je vous laisse tout de suite écouter le teaser.
Allô, Apolline, oui, allô. Tu sais, on a commencé notre Love School. Ils sont 28.
Je te jure que c'est vrai. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe et c'est merveilleux.
Pour commencer, découvrons notre premier territoire d'investigation.
Le grand commandeur du plaisir.
Quelle horreur, mais c'est immonde.
Non, c'est un clitoris.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais oui, bah alors qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je dis pas qu'on n'a pas eu des mauvaises surprises. Hein.
28 hommes et femmes handicapés ont été entraînés dans une soi-disant école de l'amour.
Je suis immense et fort comme un baobab.
Vous allez gagner 15 années pour peser le sens du mot responsabilité.
On est champions ! On est champions !
Levez la main s'il vous plaît, messieurs dames. Et dites, je le jure.
Je le jure.
J'ai 38 ans, je n'ai jamais connu d'histoire d'amour, mais ça va arriver, faut juste être patient.
Oh, j'en ai marre d'être schizophrène. Je veux faire l'amour.
Oh, Annie, il est devenu fou, il s'est jeté sur moi.
C'est pas
Alors, vous vous demandez certainement, y a-t-il vraiment eu crime ?
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter le teaser du spectacle Le lit des autres de la compagnie du Savon Noir. Il parle d'amour et de sexualité dans le milieu du handicap. Et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui avec l'autrice et la metteuse en scène au sein de cette compagnie, Delphine Dubois-Fabin. Alors tout d'abord, concernant le nom de ce spectacle, je pense qu'il y a une grosse signification derrière. Pourquoi l'avoir appelé Le lit des autres ?
Alors, l'idée des autres, c'est déjà l'idée des personnes en situation de handicap, dont on dit souvent qu'elles sont soit des anges. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Non, mais les personnes en situation de handicap, ça ne les intéresse pas. Ils se font juste des petits bisous, puis ça leur suffit, c'est OK. » Donc ça, c'est la version asexuée. Et la version « Non, mais c'est des gros dégueulasses, en fait. Ils ne gèrent pas du tout leurs pulsions. » Donc, la version monstrueuse. Et donc, c'est tous les fantasmes que les valides peuvent avoir sur la sexualité et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Il y a environ 500 personnes, 500 femmes par an qui sont ligaturées des trompes. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Depuis 2-3 ans, on l'a interdit en France parce qu'il y avait des grosses dérives, vraiment beaucoup de femmes qui étaient ligaturées contre leur gré ou même à leur insu.
Donc les femmes en situation de handicap.
Tout à fait, qui étaient stérilisées. Donc parce que voilà, il y a un gros fantasme sur leur sexualité et sur leur capacité à être parents. Aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion, ça a beaucoup avancé sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, sur leur projet de parentalité. Il y a des services d'accompagnement qui se créent, mais ça date vraiment d'il y a quelques années, c'est vraiment très 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 récent. Et donc le lit des autres, voilà, c'était parler de ça, du fantasme qu'on a vis-à-vis de ce qui se passe dans le lit des personnes en situation de handicap, mais aussi, nous, dans les principales revendications des personnes en situation de handicap avec qui on a parlé, il y avait avoir un lit double. On interdit à beaucoup de personnes en situation de handicap d'avoir un lit double, de dormir avec leur amoureux, amoureuse la nuit. Ça veut dire concrètement qu'ils peuvent toujours avoir des relations sexuelles, parce qu'on peut toujours en avoir, en fait, dans les toilettes, à l'arrière des ESAT, dans un terrain vague. On peut juste pas en avoir de manière digne. Et donc, c'est pas bizarrement les relations sexuelles qui sont vraiment interdites, c'est les relations amoureuses. Parce qu'avec qui on passe une nuit dans un lit, ben, c'est à quelqu'un avec qui on va dormir, quelqu'un avec qui on va se réveiller. Et donc, c'est plutôt les relations romantiques qui sont interdites. Et ça, ça nous a beaucoup questionnés. Qu'est-ce qu'on a, nous, valides, à interdire à une très grosse partie de la population d'avoir une vie amoureuse ? Qu'est-ce qui nous prend ? Comment on regarde ces gens-là ? Et du coup, le lit des autres, c'est aussi les personnes en situation de handicap qui regardent nos grands lits à nous, nos lits d'adultes, nos lits de liberté, et qui se disent « Ah, mais j'aimerais bien avoir ce lit-là pour moi. »
Oui, ça montre bien une infantilisation de ce public, alors que, enfin, elle n'a pas lieu d'être. Et en faisant ce spectacle, est-ce que tu as constaté, toi, une facilité à en parler, ou peut-être au début que les personnes avaient un peu plus de mal ? Enfin, est-ce que tu as vu une évolution en le construisant ?
Alors, ça dépend de qui. Pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment une libération. C'est le sentiment d'être pris en compte comme des êtres humains à part entière. Ce qu'ils sont, hein, voilà. Du coup, oui, il y a beaucoup de gratitude par rapport à ça. Il y a de la libération de la parole. Je me souviens d'une femme en fauteuil roulant, électrique, donc un handicap physique assez lourd, mais uniquement un handicap physique. Et juste après qu'elle elle ait accouché, le gynécologue avait son bébé dans les mains et lui a dit « Je comprends pas comment on peut laisser des gens comme vous faire des enfants. » Et du coup, ben, Le nombre de phrases d'une violence inouïe que les gens avec qui je travaille ont pu entendre, vraiment, c'est encore une fois très, très préoccupant, très choquant. Ça a permis aux personnes de raconter ça et d'être entendues, écoutées, crues. J'ai perdu le fil. C'est ta question, tu peux me redire, ou je ne sais plus si ça répondait. Ah oui, ce que ça a changé chez les gens. Oui. Donc les gens, ben, ils pouvaient enfin en parler. Donc pour les personnes concernées, ben, ils veulent juste de la liberté, c'est OK. Pour les personnes, pour les professionnels, les directeurs, c'est très long. Il y a des personnes qui sont, comme nous, choquées du déni de droits humains et qui œuvrent au maximum. Et il y a vraiment des personnes qui continuent à dire, par exemple, moi, je n'autorise pas ma fille à amener n'importe qui à la maison. Je ne vais pas autoriser les gens de ma structure, de mon institution, à ramener n'importe quel amoureux dans leur chambre. Non, mais en fait, c'est chez eux. Ils s'épatent tous tes enfants. Bonne nouvelle. Tu n'as pas 46 enfants en situation de handicap. Ce serait vraiment très fatigant. Donc voilà, il y a vraiment des choses très qui légitiment facilement le fait de refuser des droits humains basiques aux personnes en situation de handicap. Ça bouge, c'est lent.
Oui, donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'évolutions qui ont été faites, mais qu'il en reste encore énormément à faire aussi. Et pour ce spectacle, Lit des autres, concernant les acteurs, est-ce qu'il y avait aussi des personnes en situation de handicap qui sont intervenues pendant le spectacle? Est-ce que c'était aussi une conférence théâtralisée du même type que le spectacle que vous allez faire demain soir?
Non, là, on est vraiment plus conférence gesticulée ou dans ce style-là. Demain soir, là, on entend très bien d'ailleurs dans l'extrait que c'est plus une histoire. Oui, c'était une troupe vraiment dingue de 7 comédiens. Une partie d'entre eux était en situation de handicap, c'est-à-dire à la fois il y avait une personne schizophrène, une personne autiste, une personne trisomique, une personne qui avait un handicap physique, une anarchiste syndicaliste, une personne qui venait vraiment du théâtre très conventionnel, qui avait fait une école de théâtre très, très, très institutionnelle, une personne qui venait du théâtre de rue. Donc, on avait des profils très différents. Je vous laisse décider dans tout ce que j'ai dit, ceux qui étaient en situation de handicap ou pas. Et franchement, la veille de la première répète, je me suis dit, mais pourquoi en fait ? J'aime beaucoup la différence, je trouve que ça apporte beaucoup de richesse, mais je me suis dit, non mais là, ils sont trop différents. Et en fait, ça a vraiment super bien matché, parce que chacun avait des savoirs différents. Et ouais, ça a été une aventure hyper belle, vraiment.
Donc beaucoup de profils diversifiés, mais finalement, ça a fait un spectacle harmonieux.
Oui, complètement.
Et donc, je vais continuer encore avec une petite citation de la préface du livre Jouissance Club de June Plat. Donc, Martin Page qui a fait cette préface et qui dit, pour la conclure, « Nous avons besoin de voix qui ne viennent plus des institutions et des professionnels, mais de tout un chacun. » De celles et de ceux qui explorent et proposent des idées et des solutions, de celles et de ceux qui inventent et imaginent une sexualité égalitaire, féministe et renversante. Et donc, toi, je voulais te demander quelle place tu accordes au féminisme dans tous tes spectacles, parce que tu en parles forcément indirectement.
Alors en fait, moi je me suis présentée comme féministe tout à l'heure parce que je trouve ça plus simple. Mais en réalité, c'est surtout être égalitariste. C'est-à-dire qu'une sexualité où les désirs de chaque partenaire, deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, peu importe la configuration, donc où les désirs de chacun sont découverts par l'autre, où on n'a pas d'a priori sur ce que l'autre va aimer, où les deux sont actifs, c'est juste mais tellement bien, c'est juste tellement le pied, c'est juste tellement de plaisir que du coup, c'est une sexualité que je préfère, indépendamment du fait qu'on puisse la trouver moralement bien, mais je la trouve juste sexuellement bien en fait. Donc voilà, donc on défend effectivement plus la communication et l'égalité entre les partenaires. Et si vous n'avez pas essayé, essayez, hein, je vous assure, c'est vraiment incroyable.
Et donc tu parles de cette communication entre les partenaires et c'est ce que tu essayes de promouvoir à travers ton spectacle. Mais on voit que c'est encore dur d'en parler. Alors quels peuvent être les freins au dialogue autour de la vie intime et sexuelle ?
Écoute, je vais peut-être répondre par des exemples. On a un autre projet qui s'appelle l'énigmatique poésie du désir où on parle de la sexualité des plus de 70 ans. Et dans la collecte de témoignages, donc c'est pareil, collecte de témoignages, c'est une exposition où on présente plein de paroles de septuagénaires et plus, hein, ça va de 70 à 100 et quelques. Et donc, quand j'avais collecté les témoignages, il y avait un monsieur qui m'avait dit... j'aimerais bien mettre mon sperme entre tes cuisses. Et du coup, j'avais été hyper déstabilisée et j'avais répondu de manière très professionnelle. Ce n'est pas prévu dans le projet. Et donc, ça fait partie des témoignages qui sont dans l'expo. Et il y en a quelques autres sur le désir sexuel réel, vivant. Et donc, il y a eu une structure où on nous a demandé d'enlever ces témoignages-là, en nous disant, dans une structure, un EHPAD, hein, où il y avait une centaine de personnes âgées, en disant, non, mais nous, chez nous, les gens, ça ne les intéresse pas. Ah, ok. Donc voilà, il y a vraiment une discrimination sur qui. On a eu une structure où il y avait des violences sexuelles très nombreuses, couvertes par le directeur de la structure. Et donc, à partir du moment où nous, on a commencé à le dénoncer, comme la loi nous demande de le faire, là, pour le coup, il y a eu des signalements, on a eu plein d'embêtements. Parfois, il y a des plaintes à nos financeurs, parce qu'on parle, on dit le mot... Quand, sur le lit des autres, on faisait une lecture. Et donc, le mot le plus foufou dans le lit des autres, c'est clitoris. Et donc, il y a eu des plaintes contre nous, parce qu'on n'avait pas à dire à ce mot-là dans, publiquement. Dans un établissement qui accueillait des personnes en situation de handicap. C'est une professionnelle qui ne voulait pas entendre des mots pareils sur son lieu de travail. Donc oui, la sexualité, c'est toujours un tabou. Il y a des gens qui considèrent que c'est sale. Il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas pour tout le monde. Et du coup, ben, après, les freins sont hyper multiples. Vraiment, on a pas mal de bâtons dans les roues.
Oui, donc tu as parlé de la discrimination qui peut être notamment un des gros freins aussi. Et donc tu l'as dit toi-même, c'est très, très, un sujet qui est très tabou. Et donc quel est selon toi dans la sexualité le sujet ou l'angle de la sexualité qui est le plus tabou et pourquoi ?
Alors là, pour le coup, c'est vraiment une colle. Moi, j'ai l'impression, mais c'est vraiment mon regard, c'est vraiment exclure de la sexualité les plus âgés. Alors là, mais trop bonne nouvelle pour vous toutes et tous. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir une sexualité vivante et heureuse jusqu'à l'âge de 101 ans. Donc, si vous aimez la sexualité, ce qui n'est pas du tout obligatoire, et c'est complètement OK de ne pas en avoir envie, mais en tous les cas, ouais, c'est possible d'avoir des histoires d'amour très, 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 très longtemps dans votre vie. Ça, c'est chouette, mais donc oui, le frein pour moi, c'est vraiment les questions de discrimination de genre, le validisme, l'agisme. C'est un des gros sujets, en tout cas.
Oui, et un des sujets qui est aussi le moins mis... aux yeux de tous, finalement. Et donc, il y a mille et une façons d'aborder ce sujet, mais donc, toi, t'as décidé... Enfin, pour toi, quelle est la meilleure façon de l'aborder
En se marrant. Parce qu'en fait, c'est un sujet tellement vivant et tellement joyeux. C'est important de déminer tout ce qu'il y a autour des agressions sexuelles. Et un de nos objectifs est grave. Mais, la sexualité, les relations de corps, les relations d'amour, c'est quand même chouette. Et donc voilà, en dialoguant, ouais, en rigolant vraiment. On peut être très sérieux, donner des infos validées, tout en se marrant beaucoup, en bougeant notre corps, en découvrant du plaisir, tout en restant bien sûr dans les limites légales, parce que moi je fais beaucoup du groupe, mais c'est juste joyeux, quoi.
Et donc, dans le spectacle là, qui va être joué demain soir, est-ce que vous allez aborder ce ton un peu ironique ?
Oui, complètement. Oui, on s'amuse beaucoup. Y a quelques scénettes qu'on joue. Alors, il y a vraiment deux phases hein, dans le spectacle. Il y en a un où on parle du consentement, de comment faire des choix, de comment les communiquer. On va parler aussi de la question de la loi. On parle aussi des violences sexuelles. On parle aussi de comment faire face à la coercition. C'est-à-dire tous ces comportements qui existent pour nous faire dire oui. Si on n'a pas vraiment envie de dire oui, mais à force de nous dire « mais tout le monde le fait, mais tu m'aimes pas », que la personne peut penser de manière légitime ou pas, ou elle peut être manipulatrice ou dire vraiment ce qu'elle pense, mais peu importe. Comment faire face à cette coercition ? Donc on aborde tous ces sujets-là. Mais ouais, il y a pas mal d'humour, de temps d'interaction avec le public. Et puis, comme il y a eu par exemple dans la conf « Oser parler de sexualité », peut-être que c'est le moment de faire le petit jeu radiophonique.
Oui, j'allais y venir. C'est l'heure du jeu radiophonique.
Donc, je vous propose de m'envoyer par SMS un mot. Juste un mot. Et le premier qui m'envoie le mot exact gagnera une affiche du spectacle et 5 cartes postales très fun que vous pourrez envoyer à vos grands-mères pour Noël et à votre famille pour Noël pour leur souhaiter beaucoup de plaisir sexuel. Donc vraiment, c'est des petites cartes postales très sympas. Donc, si vous voulez parler du sexe d'un homme qui est excité, qui devient dur, vous allez dire...
Qu'il a une érection.
Oui, excellent, tout à fait. Donc ça, c'est la version polie. Si on est un peu plus vulgaire, on va dire...
Qu'il bande.
Excellent, tout à fait. Et si une femme est excitée, on vous laisse quelques secondes pour réfléchir, quand son sexe s'humidifie, quel mot est-ce qu'on peut utiliser pour parler de ça, de ce phénomène d'un sexe de femme qui s'humidifie ?
Beaucoup de gens disent qu'elle mouille.
Exact, elle mouille. On a la version un peu vulgaire. Et si on veut être poli, qu'est-ce qu'on dit ? Donc, on va dire qu'elle... Donc, c'est une expression avec quelques mots, en fait. Un terme un peu scientifique, je vous aide. En tous les cas, eh ben, vous pouvez m'envoyer au 06 62 14 66 37... votre réponse. Et donc, on vous attendra demain, avant le spectacle ou après le spectacle, pour vous remettre votre petit prix, votre petit cadeau pour avoir gagné ce jeu.
Oui, et si vous n'êtes pas au spectacle et que vous voulez avoir la réponse, vous pouvez également envoyer un SMS à Delphine qui se fera un plaisir de vous répondre.
Tout à fait.
Et voilà, et je vous laisse sur une petite pause musicale d'une femme qui a osé parler de sa sexualité très tôt.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi maintenant tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi. Déshabillez-vous.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter la musique « Déshabillez-moi » de Juliette Gréco. Donc une musique qui est sortie en 1967 et qui a évidemment fait parler d'elle à une époque où il n'était pas courant d'entendre une femme qui parlait ouvertement de sa sexualité et qui verbalisait son désir. Donc à ce sujet, on est toujours aujourd'hui avec Delphine Dubois-Fabin qui est autrice et metteuse en scène à la compagnie du Savon Noir. Et cette compagnie qui organise des conférences théâtralisée, et notamment celle autour de la sexualité qui s'appelle « Quand je parle sexualité, je me mouille », qui est jouée demain soir, le 29 novembre 2024, à 19h à l'autre rive à Ébain. Et donc, en parlant de sexualité et de désir, il y a un sondage qui est sorti récemment de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, donc l'INSERM, qui a publié une enquête concernant l'évolution de la sexualité des Français. Et cette étude, elle montre une baisse significative du nombre de rapports sexuels. Donc en 1992, 86,4% des femmes âgées de 18 à 69 ans avaient eu des rapports sexuels au cours de l'année. Et ce chiffre est passé à 77,2% en 2023. De même pour les hommes, où c'était à 92,1% en 1992. Et aujourd'hui, en 2023, à 81,6%. Donc, il y a plusieurs explications à ces chiffres. Et il y a aussi une plus grande diversité des pratiques sexuelles qui a été constatée, mais donc moins de régularité dans l'activité sexuelle. Alors, je voulais te demander, dans ton spectacle, comment est-ce que vous évoquez le thème de l'asexualité ? Parce que ces chiffres peuvent aussi peut-être être interprétés de ce côté-là.
Alors effectivement, on aborde, comme on parle de sexualité, comme je l'ai fait là, il y a quelque chose qui peut donner l'impression que si on n'a pas de vie sexuelle génitalisée, c'est un problème. Alors que non, bah, ça fait partie des différentes sexualités, d'avoir tout type de sexualité avec ou sans pénétration d'un pénis dans un vagin. On sait, selon une étude de l'Indiana, qu'il y a à peu près 20% des femmes qui ont vraiment beaucoup de plaisir à la pénétration d'un pénis dans un vagin. Du coup, c'est un peu dommage parce que c'est quand même un peu comme obligé d'en avoir dans les rapports sexuels et souvent les rapports sexuels se terminent par ça. Du coup, c'est comme si vous aimiez pas les patates et que le lundi, on vous sert des patates et le mardi, on vous sert des patates et le mercredi, on vous sert des patates et le jeudi, on vous sert des patates. Et du coup, à la fin, vous en pouvez plus de la patate. Et donc, il y a une vraie question autour de la nécessaire diversification des rapports sexuels avec ou sans pénétration. Donc, comme je disais, d'un pénis dans un vagin ou de n'importe quoi dans n'importe quoi. Si on a envie que de caresses, que de baisers, c'est ok en fait. On peut avoir beaucoup de plaisir uniquement de cette manière-là. On peut vraiment développer ces zones érogènes, les zones qui nous donnent le plus de plaisir en les caressant. Si on a moins de zones érogènes, c'est uniquement parce qu'on se cajole pas assez. Et que si on continue à se cajoler ou si on se cajole plus, on a des zones érogènes qui réapparaissent chez les garçons comme chez les filles. C'est trop bien. Et puis, donc voilà, il faut laisser effectivement la place aux différentes sexualités. Et ça, on l'évoque régulièrement. De dire que, ben oui, bien sûr, si on n'a pas envie, c'est OK, en fait. C'est OK de pas aimer les fellations, de pas aimer en recevoir ou en donner, de pas aimer les cunnilingus, de pas aimer en recevoir ou en donner. Vraiment, sentez-vous libre. Il y a plein de choses à faire. Trouvez celles qui vous conviennent. Donc, on parle de la sexualité par ce biais-là, des différentes possibilités. Après, dans À l'amour, on parlera aussi des différences de relations. Et dans nos représentations, la vie de couple aussi est très mise au centre des relations. Alors que je crois que votre génération là-dessus progresse sur l'importance de l'amitié, sur la diversification des genres de relations. Et donc la possibilité de mettre l'accent sur des relations où il n'y a pas forcément de sexualité génitalisée. Et puis il y a aussi des couples qui durent moins longtemps par rapport à la dernière étude de l'INSERM qui a été faite il y a 30 ans, il me semble. Donc effectivement, toutes ces raisons-là font que il y a peut-être une baisse des relations sexuelles. On l'espère, un peu plus de respect du consentement. Mais en tous les cas, nos conférence l'aborde en disant « c'est cool, faites bien ce que vous voulez ». Et on ne veut pas remettre la France au travail sexuel. Non, ce n'est pas du tout notre projet. Vraiment, soyez libres.
Et est-ce que vous abordez aussi la sexualité, ce terme-là qui dit que c'est aussi OK de ne pas forcément avoir envie de sexualité ?
Complètement, ouais. On le nomme et oui, on le rappelle plusieurs fois en effet.
Ok, et est-ce que ce rapport, enfin les chiffres de ce rapport pour toi, est-ce que c'est plutôt un signe de désintérêt envers la sexualité ou peut-être plutôt de libération de la sexualité qui commence à se mettre en place ?
Ouais, peut-être davantage de liberté de ce qu'on a envie de faire avec son corps. Je le souhaite vraiment. Après, la libido, elle peut être aussi très liée au désir de vivre. Il y a un autre chiffre qui est sorti sur... les questions de santé mentale pour les jeunes notamment, où on voit qu'on est dans un monde qui nous inquiète. Et ça va pas très bien de pair avec une liberté sexuelle, avec une fête, le fait d'avoir envie peut-être de s'amuser de cette manière-là notamment. Donc j'espère très fort que c'est plus de liberté par rapport au corps et que c'est pas juste trop d'inquiétude par rapport à notre avenir commun.
Oui, parce que c'est sûr, l'anxiété impacte forcément la vie sexuelle. Et l'IFOP, en janvier 2024, elle a aussi montré qu'il y a une baisse de la sexualité, en particulier chez les jeunes, où il y a 50% des hommes et 41% des femmes qui déclarent avoir regardé une série ou un film pour éviter un rapport sexuel. Donc on voit que le numérique, il peut aussi avoir un impact sur la sexualité des jeunes. Et donc, est-ce que ton spectacle, il a aussi pour objectif de redonner l'envie d'une sexualité aux jeunes ?
J'ai envie de leur donner des tuyaux, des moyens d'avoir une sexualité qui leur convient pleinement et de continuer d'aller dans la voie d'avoir une sexualité qui leur convient pleinement et quelle qu'elle soit, vraiment.
Et donc, dans ce contexte, une dernière question. Pour toi, comment la sexualité, elle est amenée à évoluer dans les années à venir ?
Oh là là, mais maintenant, il fallait que j'ai des notions de santé publique. Maintenant, il faut que j'en ai dans la lecture de boules de cristal. Écoute, non, mais je sais pas trop, mais je dirais vraiment, je nous souhaite... moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que je suis l'actualité... je vois ces logiques à l'œuvre très fascistes, très famille, travail, patrie. Ça me réjouit pas du tout, du tout, du tout. Donc ça, je vois quand même cette inquiétude-là. Hein. Nous, on avait pensé, avec le risque que le Rassemblement national passe au pouvoir, on sait que notre compagnie fermera directement et que la question de maîtrise des corps, d'IVG... seront mis vraiment en péril de santé des femmes, de contrôle donc des femmes sur leur corps sera mis en péril si le Rassemblement National passe en France. Vous avez vu là peut-être sur Insta ce député républicain, ce congressman républicain qui était hystérique et qui criait avec beaucoup de joie « Oui mesdames, c'est votre corps mais c'est notre choix et nous on contrôle vos corps ». Il y a un gros fantasme de plein d'hommes là-dessus, tout ce qu'il y a autour du backlash féministe. Donc on n'est pas sorti du gravier. Et en même temps, il y a plein de jeunes qui sont libres, qui envoient les plus âgés balader, comme c'est votre boulot de génération, voilà. Et après, il y en a d'autres qui vous enverront balader à leur tour, ça va tourner comme ça, c'est trop bien. Mais effectivement, il y a beaucoup d'inventions sur le consentement, c'est quand même riche. Là, dans les conférences que j'ai avec les jeunes, il y a plein de questions qui me sont posées hyper cash. Et en fait, donc il y a plein de choses qui sont pas sues, mais ils osent poser des questions. Et ça, c'est très réjouissant. Donc non, j'ai envie d'aller vers plus de liberté et un avenir radieux.
Donc très réjouissant de voir cette libération de la parole autour de la sexualité. Et donc, merci beaucoup Delphine pour nous avoir accordé ton temps pour cette émission.
Merci à toi et merci aux auditeurs.
Oui, et on rappelle que ton spectacle il sera joué demain soir à 19h à l'Autre Rive à Ebain. Donc, chers auditeurs, si vous avez envie de discuter avec Delphine, oui.
Et c'est gratuit, c'est offert par la ville d'Ebain. Donc voilà. En voilà. Plus, c'est facilement accessible.
Vous êtes les bienvenus pour des échanges très intéressants. Et on remercie aujourd'hui Oscar qui était à la technique.
Merci Oscar. Il est très fort, il monte ses muscles.
Après tous les messages qu'on a fait, là, ça correspond très bien. Merci oui, beaucoup. On vous laisse sur une dernière musique qui s'appelle Let's Talk About Sex.
Herb. Yo, I don't think we should talk about this.
Come on, why not?
People might misunderstand what we're trying to say, you know?
But that's a part of life.
Make void the topic,
cause that ain't gonna stop it.
Now just talk about sex on the radio and video shows.
Many will know
anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was, and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice: pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pat?
I doubt it.
All right then, come on, spin.
Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk.
To try to make any man's eyes pop, she use what she got to get whatever she don't got. Fellas drew like fools, but then again they're only human. This chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds, nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors, no one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list, and believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was dope. Dope. Subject to controversy, a three-letter word some regard as a curse. See, he may fiend and have a dream because he's seen a teen in tight jeans. What makes him react like that is biological. The scheme on getting in those jeans is diabolical, but of course he does it and she gives him rap, and before you even know it they jump in the sack. As a matter of fact, sometimes it's like that, but anyway, ready or not, here he comes, and like a dumb son of a gun, oops, he forgot the condoms.
Hey!
Oh well, you say, what the hell, it's chill, I won't get got, I'm on the pill until the sores pours and stuff pours down your drawers.
Ew.
He gave it to you, and now it's all yours.
Yours, yours.
Let's talk about you and me, let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, let's talk about sex, let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be.
L'apérophonie.
Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.